Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.
Priorité Santé, Céline Guillaume.
Bonjour. Il a environ la taille d'un poing. Son rôle, propulser le sang dans tout l'organisme et assurer l'alimentation en oxygène du corps entier. C'est dire son importance. Le cœur. À quelques jours de la journée mondiale du cœur, nous saisissons cette occasion pour parler des maladies cardiovasculaires dans Priorité Santé, c'est-à-dire l'ensemble des pathologies relatives aux vaisseaux sanguins et aux muscles cardiaques, favorisés par l'hypertension, le cholestérol, le tabac, le diabète, la malbouffe en fait partie, l'obésité, et d'autres facteurs de risque moins connus par la population générale, comme le manque de sommeil. Ces maladies sont la première cause de décès dans le monde, pas loin de 18 millions d'après l'OMS. Tueuses silencieuses, les maladies cardiovasculaires avancent souvent sans bruit et se manifestent cliniquement à un stade avancé. Sous-diagnostiquées chez les femmes, elles les développent moins mais en meurent plus. Comment prévenir, dépister ces maladies? Quels sont les traitements d'aujourd'hui, les traitements de demain? Quelles sont les spécificités féminines des maladies cardiovasculaires? Quelle activité physique pratiquer sans danger? On répond à ces questions et on répond à vos questions. Gros plan sur les maladies cardiovasculaires, notre thème du jour, nous en discutons avec le professeur Blacher, cardiologue, spécialiste de l'hypertension artérielle, chef de service du centre de diagnostic et de thérapeutique à l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris et professeur à l'université Paris-Cité. Malgré ses multiples fonctions que vous venez d'entendre, il prend le temps de participer à ce rendez-vous et je l'en remercie d'ores et déjà. Professeur Blacher, bonjour.
Bonjour, merci à vous.
Pour résumer, ne fumons pas, mangeons sainement, bougeons, surveillons notre tension, évitons le stress, dormons bien et a priori, on pourrait tenir à distance les maladies cardiovasculaires?
Tout à fait. On estime qu'il y a une part importante, majoritaire, des maladies cardiovasculaires que l'on pourrait éviter avec les bons conseils que vous venez de donner. Donc le tabac, le poids, l'alimentation, l'activité physique. Et on évite l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral.
C'est presque un mode de vie à repenser. Très rapidement, au cours de ce rendez-vous, nous accueillerons aussi Catherine Franca-Villa, ambassadrice pour le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Son combat, entre guillemets, rejoint le vôtre, professeur Blacher. Une écoute et une prise en charge équitable des femmes qui présentent des problèmes cardiaques. En seconde partie, nous serons rejoints par le docteur Véronique Lobouette-Coffi, cardiologue au centre de cardiologie et de l'ONA à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et fondatrice de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Et joyeux anniversaire à l'association L'Envol, qui organise des séjours thérapeutiques pour les enfants malades. Elle vient de fêter ses 25 ans. En fin d'émission, on vous proposera un sujet préparé par Emma Garbou-Lorenzoni. Les maladies cardiovasculaires, on en parle maintenant dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Blacher, vous êtes notre spécialiste fil rouge. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital Hôtel-Dieu à Paris. Quelles sont les pathologies englobées par ces termes maladies cardiovasculaires?
Les maladies cardiovasculaires sont des maladies qui sont très différentes les unes des autres. Il y a les maladies des veines, les maladies des artères. Les maladies des veines, ce sont les phlébites, les thromboses veineuses, et puis l'embolie pulmonaire. Et puis les maladies des artères peuvent toucher finalement tous les secteurs de l'organisme, puisque les artères vont vasculariser tout l'organisme. Donc il y a bien entendu le cœur, avec les infarctus, avec les accidents rythmiques, donc les arythmies, avec l'insuffisance cardiaque, mais il y a aussi les accidents vasculaires cérébraux, les attaques cérébrales, les hémiplégies. Et puis il y a les maladies artérielles périphériques, les sténoses au niveau des artères, des carotides, des iliaques, des fémorales, qui peuvent générer des symptômes par manque de vascularisation des organes.
Dans l'actualité, et redisons-le, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde. Donc il y a un enjeu de taille à pouvoir les prévenir. Dans l'actualité, on a pu voir qu'une étude récente publiée par le British Medical Journal suggère un lien entre la consommation d'édulcorants et les maladies cardiovasculaires. Encore une fois, le risque se trouve dans l'assiette. Pas uniquement, mais la prévention passe par une alimentation, j'ai envie de dire, consciente ou responsable. Quels sont les premiers conseils nutritifs que vous pourriez donner et qui aident à lutter contre ces maladies cardiovasculaires, concrètement?
Alors, j'ai l'impression que le premier conseil qu'on doit donner, c'est d'avoir une alimentation de type méditerranéenne, c'est-à-dire une alimentation qui fait une grande part aux fruits et aux légumes, avec peu de graisse d'origine animale, c'est-à-dire peu de viande, peu de crème, peu de fromage, et puis, si possible, des produits marins, donc les poissons, les fruits de mer. Et puis, après cela, il y a probablement une façon de préparer tous ces mets qui est plus ou moins favorable pour le système cardiovasculaire. Par exemple, on sait que les graisses animales, lorsqu'elles sont cuites, elles sont très délétères pour la santé. Donc, il faut probablement essayer de manger moins de fritures. Il faut probablement essayer de manger moins de produits qu'on appelle ultra-transformés, c'est-à-dire faire la cuisine soi-même à partir de produits, alors si possible, le plus naturel, le moins transformé possible. Et puis, ensuite, eh bien, il y a des petits éléments. Alors, les petits éléments, c'est que, effectivement, les édulcorants sont probablement délétères pour la santé. Les boissons sucrées sont probablement délétères pour la santé, alors que ce soit du vrai sucre ou du faux sucre.
Dans les deux cas.
Oui. Et puis, il faut faire attention à toute une série de micronutriments. Il faut probablement consommer suffisamment de vitamines, suffisamment d'éléments de type calcium, de type phosphore, de type magnésium. Mais en prenant beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, eh bien, habituellement, on a tous ces apports. Donc, c'est pour ça que le conseil fruits-légumes est un conseil qui englobe finalement une large part des conseils qu'on doit donner pour l'alimentation.
Donc c'est un très bon conseil. Donc ce régime est bénéfique pour la santé du cœur en particulier. En revanche, le stress, les émotions fortes peuvent avoir des effets catastrophiques pour le cœur. Est-ce que cette information, elle est suffisamment transmise ?
Alors, elle est, je dirais, trop transmise en fait.
Ah, expliquez-nous.
Eh bien, alors effectivement, les émotions vont avoir un effet d'augmentation du travail cardiaque, d'augmentation de la pression artérielle. Et ces émotions, si elles se répètent trop fréquemment, par exemple chez ceux qui ont, on va dire, une névrose d'angoisse, qui sont extrêmement angoissés pour tout, eh bien probablement qu'elles vont augmenter un petit peu le risque de faire une hypertension artérielle et peut-être de faire une maladie cardiovasculaire
Donc,
comme un infarctus.
Plutôt l'aspect répétitif ou chronique.
Oui.
Qu'il faudrait surveiller. Alors, ce n'est pas simple d'éviter ces émotions. Je pense aux événements complètement impromptus qui arrivent dans la vie, qui surviennent comme un décès ou une annonce bouleversante. Que doit-on faire dans ces cas-là pour préserver la santé de notre cœur ?
Je dirais pas grand-chose. Pas grand-chose parce que je ne pense pas que ça soit au moment d'une émotion aiguë que finalement on fait un problème cardiovasculaire, où ça arrive vraiment très rarement. Ça a été montré il y a quelques années lors des finales de Coupe du Monde de football, par exemple. Vous savez, pendant la finale, il y avait quelques supporters qui faisaient un infarctus du myocarde. Ça arrive effectivement, mais c'est vraiment confidentiel. Non, je crois que surtout le message qu'il faut faire passer, c'est qu'il ne faut pas mettre sur le compte de l'émotion un problème d'hypertension artérielle. C'est-à-dire que l'émotion augmente la pression artérielle, mais certains patients se disent « je suis hypertendu parce que je suis émotif, parce que je suis angoissé, parce que je suis déprimé, mais finalement, en dehors de tous ces problèmes, je n'ai pas d'hypertension artérielle », alors que ce n'est pas la réalité.
Le problème était préexistant.
Exactement. Alors même si l'émotion va aggraver ce problème, il faut prendre en charge cette hypertension artérielle et souvent la traiter.
Mahendri, qui est à Madagascar, nous a laissé une note vocale en lien avec ce dont nous sommes en train de parler. On l'écoute.
Bonjour, Priorité Santé. Je m'appelle Mahendri. Je viens de Madagascar, de la ville de Fenaranjou. Là, je viens pour parler du problème de ma mère. Elle a de l'hypertension artérielle depuis l'année 2009. Tout a commencé avec des vertiges et des maux de tête. Et en 2018, elle faisait un malaise après une dispute avec mon père. Et elle a ensuite consulté un cardiologue. Et ce cardiologue nous a dit que ma mère avait de l'hypertrophie au niveau du myocarde. Et on lui a prescrit des médicaments et ça a marché. Et cette année, en 2022, ma mère a consulté un autre cardiologue. Et elle a passé des examens et on lui a diagnostiqué une sorte de liquide en train de stagner au niveau de son cœur. Et ce cardiologue a changé son traitement. Et j'espère que ça va marcher aussi. Il y a une chose que je remarque constamment chez ma mère. quand mon père n'est pas là, ma mère va très bien. Il y avait même une période de séparation pendant 4 ans et ma mère allait très bien pendant tout ce temps-là. Mais puis, ils se sont remis ensemble et ma mère a commencé à avoir une crampe tout au long de son bras, dans son bras gauche. Et pour être honnête, mon père n'est pas du tout parfait. Il consomme de la drogue parfois et parfois il fait des actes d'adultère. Et quand il parle, il hausse le ton, il hausse toujours le ton et tout le monde a peur de lui à la maison. Et ma question, docteur, c'est que qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ma mère, pour qu'elle puisse gérer ses émotions en présence de mon père? Elle prend déjà ses médicaments régulièrement et elle fait toujours attention à tout ce qu'elle mange, à son alimentation, mais le seul souci, c'est les émotions. Et voilà. Merci Priorité Santé. Bonne journée à vous.
Merci à vous, Mahandri. Beaucoup d'informations laissées par Mahandri dans ce message, professeur Blacher. On a là une femme qui fait de l'hypertension, sujet que vous connaissez bien, avec des troubles au niveau du cœur. Et se surrajoutent ces difficultés dont nous a parlé Mahandri, d'ordre conjugal, j'ai envie de dire. Comment pouvez-vous conseiller Mahandri, qui s'inquiète pour sa mère?
Tout d'abord, remettre peut-être les choses à leur place. C'est-à-dire que Mahandri nous dit que c'est suite à une dispute avec son père que sa mère a eu un diagnostic d'hypertension artérielle, comme si c'était à cause de la dispute que finalement elle a développé un problème cardiaque. Ce n'est pas le cas. Elle avait à ce moment-là déjà une hypertrophie du cœur. Pour avoir une hypertrophie du cœur, il faut être hypertendu depuis des années, voire depuis des décennies. Donc ça veut dire que cette femme a une hypertension artérielle depuis longtemps et il faut traiter cette hypertension artérielle. Après, il y a une deuxième maladie qui vient se surajouter, qui est en fait cette haut au niveau des enveloppes des séreuses du cœur, cette péricardite, qui n'a absolument rien à voir, qui est souvent une maladie virale, mais qui ne survient pas plus fréquemment chez ceux qui sont hypertendus ou chez ceux qui ont des émotions. C'est une maladie qui le plus souvent disparaît après un traitement de quelques semaines. Alors après, ce n'est pas parce qu'elle a de temps en temps des conflits avec son mari que le problème cardiaque va s'aggraver. Il faut traiter son hypertension artérielle, il faut qu'avec le traitement, elle ait une pression artérielle qui soit normalisée au repos, c'est-à-dire en dessous de 140-90 ou 14-9. Et puis après, les problèmes des émotions, des conflits conjugaux, malheureusement, je ne suis pas du tout compétent pour répondre, mais j'ai quand même l'impression que lorsqu'ils sont loin, ces deux personnes, eh bien, elle va mieux que lorsqu'ils sont ensemble. Mais bon, après...
On entend ce que vous n'avez pas dit, professeur Blacher. Il y a un sujet qui vous tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, c'est le diagnostic des maladies cardiaques chez les femmes. On accueille tout de suite Catherine Franca-Villa, ambassadrice pour le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Elle fait malheureusement partie de celles que le corps médical n'a pas su entendre, n'a peut-être pas pris au sérieux aussi. Bonjour, bienvenue Catherine Franca-Villa.
Bonjour Céline, bonjour professeur Blacher.
Est-ce que les mots sont justes? On ne vous a pas prise au sérieux?
Je pense pas que ce soit ça, je dirais pas. Dites-nous. Ça, je dirais plutôt qu'on n'a pas suffisamment écouté et je pense qu'on n'a pas suffisamment additionné tous les symptômes que je pouvais communiquer.
Bah, quels ont été alors justement vos premiers signes d'alerte, ceux qui vous ont poussé à consulter?
Alors, j'ai commencé à consulter une première fois en 2009 parce que j'avais un essoufflement. J'étais très fatiguée et j'étais assez essoufflée, un peu comme si j'avais de l'asthme, j'avais du mal à respirer. Donc à ce moment-là, j'ai vu un rhumatologue, de manière à pouvoir vérifier avec lui si j'avais de l'asthme ou pas. Et puis ensuite, je suis quelqu'un qui courait à l'époque beaucoup. J'ai commencé à avoir une douleur au niveau du poignet qui irradiait jusque dans le bout des doigts et qui faisait comme une sorte de fourmillement dès que je me mettais à courir, vraiment au départ de ma course.
Combien de médecins avez-vous vu? Combien de diagnostics avez-vous reçus? Diagnostics erronés, hein, si j'ai bien compris, avant que le diagnostic ne s'impose de fait à la suite d'un infarctus?
En fait, de 2009 jusqu'à mon premier accident cardiaque en 2020, Sincèrement, je ne sais pas, j'en ai eu beaucoup. On m'a diagnostiqué une tendinite du coude quand je me plaignais d'avoir mal au bras gauche. On m'a diagnostiqué, je faisais des malaises vagaux à répétition depuis des années. On m'a diagnostiqué une épilepsie partielle. Je ne sais plus, il y en a tellement eu que je ne pourrais pas tous les énumérer. Je faisais des migraines ophtalmiques. On m'a dit que c'était hormonal, que j'étais une femme et que forcément, mes hormones...
Vous travaillez
Voilà, créer ce genre de problématiques. J'avais des douleurs musculaires dans les jambes, vraiment au point de ne pas pouvoir me lever le matin pour marcher. C'était pareil, on m'expliquait que c'était hormonal, que j'étais sûrement trop stressée, que j'étais une anxieuse, qu'il fallait que je prenne des traitements anxiolytiques pour me calmer. J'ai eu beaucoup, beaucoup de diagnostics différents.
Comment est-ce que vous avez vécu cette errance médicale et puis quelles conséquences sur votre santé mentale ?
Alors, l'errance médicale, quand on le vit au fur et à mesure tout au long de ces années, finalement, on croit, on entend chaque médecin et on pense qu'on a le diagnostic qui a été posé à ce moment-là. Donc, on se traite et on attend que ça passe. C'est après coup, en fait, c'est aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu entendre du professeur Claire Mounier-Veillé, par exemple, tous les articles que j'ai pu lire où je me rends compte qu'il y avait une errance médicale, mais de diagnostic, en fait, réel. Mais du coup, à l'instant T, c'était pas une errance médicale.
Vous avez fini par faire, non pas un, mais deux infarctus. Et vous portez ce message, il faut aller voir un cardiologue comme on consulte un gynécologue. C'est ce que vous conseillez aux femmes.
Oui. En fait, ce que je conseille aux femmes, c'est de s'écouter. Le corps, il y a deux choses. Le corps fait des signes qui sont importants et dont il faut tenir compte. Ensuite, on a cette petite voix intérieure, je ne sais pas si c'est spécifiquement féminin, mais on a cette petite voix intérieure qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent, on le sait. Mais ça aussi, il faut l'entendre et il faut consulter. Il ne faut pas avoir peur de consulter encore, encore et encore jusqu'à ce qu'on tombe sur le médecin qui va être à l'écoute et qui va avoir le bon diagnostic.
Merci Catherine Francavilla pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes ambassadrice pour agir pour le cœur des femmes et que vous portez ce message qu'on vient d'entendre et que vous sensibilisez aussi les femmes et le corps médical d'une certaine façon. Merci à vous.
Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci beaucoup.
Professeur Blacher, le témoignage de Catherine Francavilla, il illustre ce dont on parle parfois, ces femmes sous-diagnostiquées. Comment on l'explique ? Je parle dans les cas de cardiopathie, bien sûr.
Alors déjà, je trouve que ce témoignage est vraiment très émouvant.
Il est fort.
Ah ouais. Et qu'il doit probablement nous remettre en question lors de nos activités de soins. C'est vrai que assez souvent, on n'écoute pas suffisamment nos patients, surtout si on ne croit pas a priori qu'ils puissent avoir une maladie cardiaque. Alors c'est vrai que lorsqu'on voit surtout une femme, lorsqu'on voit quelqu'un de jeune, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'a pas beaucoup de facteurs de risque traditionnels, c'est-à-dire le tabac, c'est-à-dire le diabète, c'est-à-dire l'hypertension, c'est-à-dire le cholestérol, eh bien même si cette personne a des douleurs dans la poitrine, eh bien on ne croit pas à la maladie cardiovasculaire. Mais il faut savoir que la médecine, c'est un art difficile et que, notamment pour la médecine cardiovasculaire, eh bien, ces facteurs de risque ne vont expliquer qu'une part de la survenue des maladies. C'est-à-dire que, on va dire quasiment dans un tiers des cas, eh bien, ces patients n'ont pas de facteurs de risque conventionnels et pourtant ils sont malades. Et donc il faut qu'on puisse en permanence douter, se remettre en question, remettre en question les diagnostics des collègues qui sont passés avant nous et éliminer même des maladies rares, même des maladies qui sont peu probables chez cette femme. Donc probablement qu'on ne s'est pas suffisamment remis en question chez elles. Et ça explique le fait qu'on est tellement attendu pour faire le diagnostic de maladie cardiaque.
Ce qu'on pourrait peut-être aussi ajouter avant d'accueillir Alexis parmi nous dans cette discussion, c'est que les troubles cardiaques peuvent se manifester chez les femmes différemment. Des manifestations qu'on retrouve chez les hommes, comme des nausées, des sueurs. Vous pouvez peut-être nous dire les autres symptômes qu'on retrouve et qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on retrouve chez les hommes.
Alors, effectivement, les symptômes des maladies cardiaques peuvent être pas du tout des douleurs dans la poitrine et des choses très classiques ou banales. Il y a des patients qui font des malaises, il y a des patients qui ont juste de la fatigue.
Et ça pourrait évoquer n'importe quelle autre pathologie.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que de temps en temps, eh bien, on part sur une mauvaise voie, sur une mauvaise piste. Et malheureusement, on ne remet pas en question cette première voie et cette mauvaise piste. Donc c'est vrai que de temps en temps, ça peut être des nausées. C'est vrai que de temps en temps, ça peut être juste des douleurs au niveau du cou, au niveau du bras, au niveau juste du poignet, plus souvent gauche que droit. Ça peut être des douleurs dans le dos, ça peut être des malaises. Là, on lui avait fait le diagnostic de malaise vagal. Enfin, bref, ça peut être toute
très
une
divers.
Série de symptômes. Et probablement que ces symptômes peu évocateurs sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Mais attention, ça peut aussi arriver chez les hommes. Il ne faut pas mettre en opposition les hommes et les femmes. Je crois que les symptômes atypiques dans les maladies cardiaques concernent les deux sexes, probablement plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes.
Alexis est avec nous. Bonjour Alexis, bienvenue dans Priorité Santé.
Bonjour professeur Blachard, bonjour Céline.
Vous êtes à Kinshasa en RDC, c'est votre femme qui rencontre des problèmes de santé depuis sa ménopause. On vous écoute.
Oui, c'est mon épouse qui souffre de l'insuffisance cardiaque. Bon, au départ, c'était des chaleurs. Et ces chaleurs à notre niveau, on croyait que c'était de l'estomac, il souffrait de la gastrite. Alors, un jour, le matin, elle prend du thé. Après avoir pris du thé, elle avait piqué une crise là. Et on l'avait amenée dans un centre médical. Là-bas, on avait remarqué qu'il y avait l'hypertension. On a traité l'hypertension. Nous sommes rentrés à la maison. Après un certain temps, elle avait repiqué la même crise. Alors, nous sommes allés vers un centre qui était beaucoup plus spécialisé. De là, on nous dit, bon, c'est la gastrite, il faut soigner la gastrite. Ils ont soigné la gastrite, mais ça n'a pas toujours allé. Elle continue toujours à faire des crises, les arrêts cardiaques. Et après, ça s'est arrêté. Après, c'est cette guérison, nous sommes rentrés à la maison. Après avoir rentré à la maison, dans l'imprudence, elle a repris du thé. Juste après avoir pris du thé, elle a piqué la même crise. Nous sommes allés vers le même centre. Alors, à ce centre-là, les docteurs que nous avions trouvés sur place, il va prélever la tension artérielle. Après avoir prélevé la tension artérielle, il nous dit non, il faudra faire l'échographie et l'ECG. Nous sommes allés faire l'échographie n'a rien donné comme résultat. L'échographie dit, le cœur c'est bon, il n'y a pas de problème avec le cœur.
Où en est votre épouse aujourd'hui, Alexis?
Mon épouse est avec moi, elle fait les mêmes crises. D'ailleurs, cette nuit, elle a fait une forte crise avec cette histoire-là. Elle est avec moi ici à la maison. Parce que le cardiologue que nous avions visité, il nous a demandé de faire l'intervention, fixer une pile pour faire augmenter la tension artérielle. Mais on n'a pas d'argent, cela n'a pas eu lieu. Jusqu'à ce jour, je suis aux abois, je ne trouve pas à quel sens vouer. Bon, ayant suivi le docteur Barthélo un jour
je pense
à la priorité santé,
oui.
C'est pourquoi j'avais proposé à la priorité santé de pouvoir trouver un cardiologue qui peut, dans la mesure du possible, nous proposer un autre traitement moins cher
que celui qu'on vous a proposé. Professeur Blacher, je vous ai vu prendre des notes de manière très concentrée suite au témoignage d'Alexis. Que pouvez-vous lui dire ?
Alors, c'est toujours très difficile de faire de la médecine à distance, par téléphone. L'impression que j'ai comme cela, c'est que l'hypertension artérielle n'est pas responsable de tout ce qui arrive à votre épouse, monsieur. L'hypertension artérielle ne se traite pas par la pose d'un stimulateur cardiaque, c'est-à-dire un pacemaker, ce que vous appelez la pile. Ce qui se traite par la pose d'un stimulateur cardiaque, c'est le fait que le cœur batte trop lentement et qu'à certains moments, il y ait des pauses cardiaques. Et malheureusement, par rapport à ces pauses cardiaques, on n'a pas d'autre moyen que de poser un stimulateur. Il n'y a pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de traitement alternatif. Donc, c'est vrai qu'un pacemaker, ça coûte très cher. Et que s'il n'y a pas de prise en charge, eh bien, il y a peu de personnes qui peuvent se le payer. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de consulter un cardiologue pour s'assurer qu'il n'y ait pas de médicaments qui ralentissent le cœur. De temps en temps, ces médicaments peuvent être cachés, par exemple dans les gouttes pour les yeux. Et c'est vraiment en l'absence de tout médicament qui ralentit le cœur qu'on pose de façon formelle l'indication d'un pacemaker. Alors après, si vous ne trouvez pas les moyens financiers, je pense qu'il faut essayer d'aller vers des associations caritatives. Hein. Il y a des équipes, notamment françaises, mais pas exclusivement françaises, qui vont régulièrement faire des interventions dans les pays les plus défavorisés pour faire des interventions cardiaques, pour poser des pacemakers, pour poser des valves, etc. Enfin, des interventions qui, sans lesquelles les patients ne survivraient pas. Donc essayez de vous rapprocher d'associations caritatives. Je ne sais pas s'il y en a qui sont actuellement en charge à Kinshasa, au Congo, mais si réellement le diagnostic d'arythmie, de bloc cardiaque qui nécessite la pose d'un pacemaker est posé, je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut essayer de s'en sortir.
Merci Alexis.
Oui, je vous ai suivi.
J'ai bien entendu que vous étiez à l'écoute. Merci pour votre appel. J'espère que vous avez pris bonne note des conseils du professeur Blacher et on espère avoir de vos nouvelles prochainement. Merci. Dans un instant, professeur Blacher, nous serons en compagnie de l'une de vos consoeurs, le docteur Lobouette Kofi, en Côte d'Ivoire, et on continuera à parler prévention des maladies cardiovasculaires.
Minha amiga Teodora virou rainha da Amadora. Minha amiga Teodora virou rainha da Amadora. Quando vai a Babilônia,
ela se engana com muita mania.
Quando vai a Babilônia,
ela se engana com muita mania.
O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. O seu corpo escultural, não duvidem, é natural. Seu andar serpenteado
está sempre cadenciado.
Seu andar serpenteado
está sempre
a qualquer prazer, formosura de mulher que não se dispõe a qualquer prazer. Minha amiga Teodora,
negra, linda, encantadora.
Minha amiga Teodora,
negra, linda, encantadora.
Formosura de mulher que não se dispõe a qualquer prazer.
formosura de mulher que não se dispõe a qualquer prazer. Minha amiga Teodora,
negra, linda e encantadora.
Minha amiga Teodora,
negra, linda e encantadora.
Teodora.
Zeninho Noy d'Angola, dans Priorité Santé avec Minha Amiga Teodora. Nous nous intéressons aujourd'hui aux maladies cardiovasculaires, suite de cette discussion avec le professeur Blacher, cardiologue à l'hôpital Hôtel Dieu à Paris, qui nous accompagne depuis le début de ce rendez-vous. Un message pour Alexis que nous avons eu il y a quelques minutes. Si vous êtes toujours à l'écoute, Alexis, nous allons nous rapprocher de vous à la suite de cette émission. Dans un instant, nous serons avec le docteur Lebouette Kofi, cardiologue en Côte d'Ivoire. Mais tout de suite, nous accueillons Aïssata dans Priorité Santé. Bonjour Aïssata, bienvenue parmi nous.
Bonjour Céline, bonjour professeur Blacher.
Nous vous écoutons, Aïssata.
Voilà, moi je suis une patiente âgée de 36 ans.
Vous êtes à Niamey?
Je suis à Niamey, oui. Je souffre d'une maladie chronique très rare depuis 9 ans maintenant. Et la maladie avait débuté par des céphalées intenses et des vertiges qui étaient devenus de plus en plus permanents. Et la maladie a débuté en 2013. Et devant ce signe, j'avais consulté un médecin qui avait pris ma tension artérielle et il s'est avéré qu'elle était basse. Il était à 9,6. Et là, avec le temps, ça s'est un peu compliqué. Au bout de 2 mois, la tension est devenue imprenable aux deux membres supérieurs. Il a fallu qu'il prenne la tension au niveau du pied. Et là, elle était normale au niveau du pied. Donc, c'était un médecin interniste. Il m'a tout de suite demandé de faire une écho Doppler des troncs supra-aortiques. Et l'écho Doppler a montré la présence d'un caillot intracarotidien gauche. Ce qui lui a permis de poser le diagnostic de la maladie Takayasu. Après, j'ai vu un chirurgien vasculaire qui a demandé à faire une artériographie. Et celle-ci a révélé une sténose du tronc artériel brachiocéphalique, une thrombose au niveau de la sous-clavière gauche et de la vertébrale postérieure. Devant ces signes, il était urgent d'intervenir. Donc, j'ai bénéficié d'un pontage aorto-bicarotidien en juin 2013. Puis de la pose de 2 stents sous clavier en octobre de la même année. Maintenant, le problème, c'est qu'en paire opératoire, j'ai fait un double AVC qui entraînait une tétraplégie. Après une kinésithérapie de 3 ans, j'ai récupéré l'usage du membre supérieur droit, du membre inférieur gauche. Je dirais une récupération complète. Mais je souffre toujours d'une hémiparésie gauche. Et bon, je ne dirais pas au pied une monoparésie. Au niveau du pied droit, je n'ai pas complètement récupéré, mais ça ne me dérange pas beaucoup. Je boite juste un petit peu. Mais le problème que je voudrais poser ici, c'est que j'ai convulsé en réanimation. Donc, ils m'ont mis sous des bakines. Et après, ça allait. Mais l'année dernière, en 2021, j'ai commencé à convulser régulièrement. Et là, j'ai fait un électromyoloencéphalogramme qui dit que j'ai une épilepsie généralisée à point de début focal et à point de début frontal. Maintenant, j'ai 2 questions à poser au professeur.
On vous écoute, Aïssata.
Donc, est-ce que la première convulsion que j'ai eue en réanimation en 2013, est-ce que ça veut dire que mon épilepsie a débuté depuis ce temps-là? Et la deuxième question, C'est pourquoi ma récupération, je dirais pas, n'est pas celle d'un hémicorps. J'ai toujours un problème au niveau de ma main gauche et au niveau de mon pied droit.
Professeur Blacher, que peut-on conseiller à Isata? Et bien évidemment, on comprend les limites de l'exercice à distance avec les éléments dont vous disposez.
Alors d'abord, madame, vous avez effectivement, comme vous l'avez dit, une maladie qui est une maladie rare, la maladie de Takayasu, qui touche justement plus volontiers les femmes et plus volontiers les femmes jeunes. C'est une maladie qui correspond en fait à une inflammation de la paroi des artères qu'on va traiter le plus souvent par des anti-inflammatoires et parfois des fortes doses d'anti-inflammatoires. Mais dans votre cas, le mal de cette maladie a été fait et donc vous aviez une atteinte importante de plusieurs artères, notamment les carotides, notamment le tronc artériel brachiocéphalique, notamment la sous-clavière, la vertébrale postérieure. Et finalement, vous avez dû être opéré, vous avez dû avoir ces poses de stent. Et comme on le voit parfois, ces opérations sont vraiment loin d'être anodines et vous avez fait deux accidents vasculaires cérébraux en périopératoire. Alors, vous avez des séquelles de ces accidents vasculaires cérébraux. Première mauvaise nouvelle, c'est qu'on est à 3 ans de ces accidents vasculaires cérébraux. Il est peu probable que vous récupériez intégralement l'usage de votre pied droit et de votre main gauche. Mais il faut continuer à faire de la kinésithérapie parce qu'on sait que plus vous en ferez et moins la séquelle sera importante.
Donc et la puis, grande recommandation, c'est la kinésithérapie.
Oui, il faut continuer la kinésithérapie. Et le dernier point, voilà, l'épilepsie. L'épilepsie, c'est une séquelle aussi de votre accident vasculaire cérébral. Mais on va trouver un traitement. Vous avez eu de la dépakine qui a été efficace, qui n'a plus été efficace. Il y a beaucoup d'autres antiépileptiques. Et ne vous inquiétez pas, on trouve toujours un traitement contre l'épilepsie séquellaire d'un accident vasculaire cérébral.
Et ça, c'est une bonne nouvelle à entendre. Merci Aïssata de votre participation dans Priorité Santé. Nous accueillons à présent le docteur Lobwe Kofi, cardiologue au Centre de cardiologie Adlona Abidjan et fondatrice de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. Bonjour docteur Lobwe Kofi, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour. Bonjour Céline.
Nous avons pris un peu de retard dans votre participation. Justement, ce sont des problèmes que nous présentent les auditeurs qui évidemment ne sont pas des problèmes simples. On aimerait vous entendre. Plusieurs médecins en Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme sur la recrudescence des maladies liées au mode de vie, en particulier les maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce que ce mode de vie propice au développement de ces maladies dont parlent ces médecins ivoiriens?
Voilà. Je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs de RFI et puis vous remercier de m'associer à cette émission. Alors, pour parler de maladies, l'émergence des maladies cardiovasculaires sont en grande partie liées aux facteurs de risque. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les facteurs de risque et s'y exposent et malheureusement développent des maladies cardiovasculaires. Parmi les facteurs de risque, il y a l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur, et les syndromes métaboliques. Je parlais des dyslipidémies, du diabète, de l'obésité, du surpoids, et parlais également de la sédentarité, le stress aussi. Donc, les gens s'exposent sans le savoir. Mais ce que nous recevons, quand nous les sensibilisons, en général, ils prennent conscience et puis ils font attention. Voilà. Donc, je peux continuer?
Oui, bien évidemment, on vous écoute.
Oui. Alors, pour parler de prévalence d'hypertension artérielle, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on se rend compte qu'au fil des années, cette prévalence s'accroît. S'accroît parce qu'en 2006, on parlait d'environ 22% de prévalence d'hypertension artérielle. Mm-hmm. En 2015, selon les statistiques du ministère de la Santé, on a parlé de 30%. Et en 2018, lorsque l'Institut de cardiologie, en partenariat avec la Société internationale de l'hypertension artérielle, ont mené une enquête dans toute la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé une prévalence de 35%. Je trouve que c'est vraiment beaucoup.
C'est énorme, bien sûr.
Oui, c'est énorme. Et donc, il y a quelque chose à faire. Il faut sensibiliser la population. sur la façon de manger, sur la façon de, sur le mode de vie en fait. Parce que parmi les facteurs de risque aussi, il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme. Et de plus en plus de jeunes filles qui adorent ce qu'on ne trouvait pas avant. Voilà.
Oui, même chez les jeunes gens, on retrouve ces maladies.
Oui, même chez les jeunes. Même chez les jeunes, moi j'ai l'avantage d'être au plateau et j'ai conçu des jeunes cadres de 30 ans, 35 ans, ils sont déjà hyper tendus. Alors qu'anciennement, l'hypertension artérielle apparaissait chez les personnes à partir des 50, au-delà des 50 ans, mais de plus en plus, les 30 ans, les 35 ans sont concernés par l'hypertension artérielle.
Docteur Lobouekofi, quel message souhaiteriez-vous faire passer aujourd'hui sur notre antenne à propos des maladies cardiovasculaires ? On vous écoute.
Alors, le message qui doit passer, que j'aimerais que tout le monde retienne, l'hypertension artérielle, nous l'appelons tous, dans tout le monde entier, nous l'appelons tueur silencieux. L'hypertension artérielle a un caractère silencieux. On ne peut pas, quelquefois, sans rien. C'est vrai, quelquefois, on a des signes, des maux de tête et autres, mais c'est très souvent qu'on ne ressent rien. C'est pour cela, moi, j'exhorte la population à mesurer sa tension soi-même. Et actuellement, nous sommes en train de faire la promotion de la pratique de l'automesure tensionnelle. Le fait que les gens possèdent un tensiomètre à la maison et qu'ils mesurent leur tension eux-mêmes, ça permet effectivement de découvrir précocement la maladie et de se faire prendre en charge précocement. Et actuellement, je vous parle, nos équipes sont dans la région, dans le département d'Azoté, et en train de sensibiliser la population sur l'utilisation du tensiomètre électronique à brassard, les conditions d'utilisation, les techniques et surtout l'interprétation des chiffres. Quels sont les chiffres qu'on ne doit pas dépasser? Je pense, à mon humble avis, je pense que c'est la seule façon de réduire les maladies cardiovasculaires. Parce que l'hypertension artérielle est à l'origine, est plutôt est le premier facteur de risque de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale et des AVC que nous connaissons.
Et vous faites bien de le souligner, docteur Lobouekofi. Je rappelle que vous êtes cardiologue en Côte d'Ivoire. Merci encore pour votre participation. Je vous remercie aussi, professeur Blacher. Je rappelle que vous êtes cardiologue, chef de service du centre de diagnostic et thérapeutique à l'hôpital Hôtel-Dieu de Paris. Pour conclure cette émission, nous vous proposons un coup de projecteur sur l'engagement du monde associatif sur le terrain de la santé, bien évidemment. Le week-end dernier, l'association L'Envol fêtait ses 25 ans. Elle est connue pour organiser des séjours thérapeutiques pour les enfants malades. Et à l'occasion de cet anniversaire, les enfants, leurs familles, les bénévoles se sont tous réunis. Un reportage d'Emma Garbou-Lorenzoni dans Priorité Santé.
C'est un chien de Astérix.
Je m'appelle Mathéo Castet, bientôt 12 ans et demi, et j'ai le syndrome Bacter.
Ça fait longtemps que tu fais des séjours avec l'association ?
J'ai fait 2 ans.
Et t'as fait quoi comme activité là-bas dans ces séjours ?
Du dessin, du tir à l'arc, une chasse au trésor aussi, du mini-golf.
Il y a Hélène qui est juste à côté de nous qui nous a rejoint. Tu la connais, il me semble ?
Oui.
Tu l'as rencontrée comment ?
Au premier séjour, c'est à faire bien où j'allais tout le temps à la fermerie faire mes soins.
J'étais là au séjour au mois d'avril, pas en tant qu'infirmière, en tant que princesse. Parce qu'à l'envol, on n'a pas d'infirmière, on a des princesses. On n'a pas de médecin, on a des rois. Et on ne va pas à l'infirmerie, on va au château.
Est-ce que c'était rassurant de savoir qu'elle était là pendant le séjour ?
Oui, c'est bien qu'il y ait des princesses qui nous surveillent au cas où il y a un problème.
Pour vous, ça fait quoi de participer à un séjour avec des enfants comme Mathéo ?
Pour moi, ça me change de mon quotidien à l'hôpital où on n'a pas forcément le temps de faire notre travail comme on le souhaite. L'envol, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour nous aussi en tant que professionnels de santé. C'est permettre de voir les enfants se dépasser malgré leur maladie. Voir Mathéo faire tous ses soins, tout seul, autonome.
Est-ce que tu pensais que c'était possible pour toi, par exemple, de faire des chasses au trésor ou de faire différents sports ? Tu m'as parlé de tir à l'arc, c'est ça ?
C'est grâce à l'envol que je me suis dit que je pouvais dépasser mes limites. Par exemple, j'avais un corset et puis le tir à l'arc, je pensais que c'était pas possible à cause des bras. Mais en fait, c'était bon, je pouvais le faire.
Ça, c'est chouette et c'est ça qui est important à l'envol, que l'enfant puisse oublier un peu la maladie et faire ses soins en dehors des activités pour pouvoir profiter à fond tout le reste de la journée.
Et cet après-midi débutera un grand jeu qui rassemblera les bénéficiaires et leurs familles, ainsi que les bénévoles de l'association. Puis il y aura une tombola et même en fin de soirée, une boum qui sera organisée. Mais avant toute chose et avant son grand discours, on va rencontrer la directrice de l'association L'Envol, Johanna Jam.
Enchantée.
C'est quoi la mission de l'association L'Envol exactement ?
L'objet de l'association, c'est de les aider à trouver la force et de l'espoir pour se battre contre la maladie et puis aussi de leur donner du répit dans ce combat qui est long et qui est parfois extrêmement éprouvant. C'est une approche qui est unique en France puisqu'on propose des séjours multipathologies. Donc on va avoir sur un séjour des enfants avec des situations médicales qui vont être extrêmement variées. On va avoir des week-ends pour les familles, on a des séjours pour les frères et sœurs non malades, on peut avoir des séjours aussi pour les enfants malades avec leurs frères et sœurs.
Il y a certains de ces enfants qui sont atteints de lourdes pathologies. Leur état de santé peut rendre certaines activités difficiles. Est-ce que L'Envol est préparé justement à ce type de cas, puisque vous accueillez vraiment des enfants qui sont atteints de plein de pathologies différentes ?
Oui, en fait, c'est précisément notre mission, notre métier. Ce sont des enfants qui, au quotidien, sont empêchés de beaucoup de choses du fait de leur maladie. Et donc, en fait, quand ils viennent chez nous, à L'Envol, on met tout en place pour qu'ils rencontrent la réussite, qu'ils soient fiers d'eux, en fait. Par exemple, sur l'escalade, qui est quand même l'activité la plus emblématique et incroyable, hein. Donc, on va se débrouiller pour qu'un enfant, même s'il est dans un fauteuil, eh ben, s'il veut aller en haut du mur d'escalade, il va y aller.
Vous proposez donc des séjours thérapeutiques au sein de L'Envol. Ils sont ouverts à des enfants de 6 à 25 ans, même si à 25 ans, on ne peut plus trop parler d'enfance, mais ce sont de jeunes adultes. Est-ce que ça veut dire qu'eux aussi, ils ont besoin de sortir de leur quotidien à ces âges-là ?
Oui, complètement. En fait, on ne devient pas adulte du jour au lendemain. Et même au contraire, c'est encore plus compliqué puisqu'ils vont devoir se prendre en charge au niveau de leur maladie et des soins. Et puis, il y a des difficultés aussi de commencer à se projeter en tant qu'adulte. Qu'est-ce que ça va être ma vie avec cette maladie ? C'est une maladie, est-ce que je vais en guérir ? Et donc, c'est pour ça que L'Envol a voulu être présent en fait pour les jeunes, être là pour eux et puis les réunir ensemble pour qu'ils puissent se parler.
Donc aujourd'hui, on fête les 25 ans de l'association L'Envol. Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des nouveaux objectifs en vue ?
Oui, notre vision, c'est vraiment réussir à proposer davantage de nos programmes sur tout le territoire de la France. On sait qu'il y a beaucoup de besoins, il y a énormément de listes d'attente sur nos programmes. On sent qu'on est aussi en capacité d'aller plus loin dans la création de programmes vraiment qui répondent à des besoins des familles et des enfants. Donc oui, c'est extrêmement important.
Et merci à Emma Garbou Lorenzoni pour ce reportage. Longue vie à l'association L'Envol. Merci à nos invités qui ont participé à l'émission du jour. Le professeur Blacher, cardiologue à Paris. Le docteur Louboué Kofi, cardiologue à Abidjan. Merci à Catherine Francavilla, ambassadrice engagée au sein d'Agir pour le cœur des femmes. Merci à l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Ophélie Lassène, Louise Caledec, Emma Garbou Lorenzoni et Laurent Hérault. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Demain, nous parlons de l'impact des émotions sur la peau, une émission qui sera présentée par Raphaël Constant.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à assurer l'avenir de vos enfants.